d'inviter des voisins aussi en local pour faire de la médiation locale et dire ben, vous êtes bienvenus à voir les compétences qu'on est capable de mettre en œuvre et de partager avec nous des pizzas, des tartes faites dans le four. On n'y a pas fait de pain pour l'instant. Parce qu'on n'a pas restauré la porte. Il faut apprivoiser vraiment la manière de gérer la température dedans. Mais en tout cas, tout ce qui a été cuisson de tarte, pizza et autres, ça marche impeccablement bien. Et donc, il a servi déjà 3-4 fois et il va continuer à servir. Voilà. Voilà. Il tire super bien. On ne s'enfume pas ici.
Du coup, j'ai expliqué sur mail... C'est une commune un peu atypique, donc Mathieu il en a parlé par rapport à la dynamique associative. On a beaucoup d'associations et on a aussi des collectifs de citoyens qui existent sur Mel, comme le collectif Mel Alimentaire ou la sauce béchamel. Enfin là c'est une structure associative mais avec un raisonnement très horizontal. Et en fait la commune de Mel n'a pas voulu... ça aurait été beaucoup plus simple de faire une régie municipale. On embauche quelqu'un, voilà, il est salarié, il fait du maraîchage toute la journée et puis il y a un budget. Voilà. Mais non, c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment porter cette initiative citoyenne qui existe, qui est forte et qui, elle, est pérenne par rapport à un mandat municipal. Et du coup, l'idée, c'est que notre idée, c'est que les bâtiments et les terres du foncier dont on parlait resteront propriété de la commune et mis à disposition des initiatives citoyennes, donc sous quelle forme on verra, et mis à disposition d'agriculteurs, on espère, qui arriveront à s'installer ici pour avoir une activité agricole et rentable. Et donc oui, voilà, si ces bâtiments et le foncier agricole restent propriété de la commune, comment on pérennise face à cette instabilité politique. Et donc on réfléchit à des projets de création d'une foncière. Donc là, une foncière, c'est un organe en fait vraiment installé avec des citoyens, avec des donateurs, etc. Donc ça, si on bascule dans ce champ-là, ce sera beaucoup plus stable dans le temps que si ça reste municipal. Donc voilà. C'est encore en réflexion. Mathieu l'a dit, hein, le Covid au début du mandat, ça nous a bien bousculé. Ça nous a mis un an et demi de retard sur certains travaux, et notamment sur le projet de la ferme. On est une équipe aussi où c'est beaucoup de nouveaux élus. Donc il faut du temps pour entreprendre. Voilà, on n'est pas tous animateurs de métier, donc aussi animer des groupes parce que on a composé plein de groupes de travail avec des citoyens dans tous les groupes. Et donc, il faut faire de l'animation, il faut rendre compte, il faut communiquer. Ça, c'est aussi un gros point de communiquer, de faire savoir aux habitants ce qu'on fait, comment on le fait. Et ça, c'est aussi compliqué, quoi. C'est vrai que moi, je rencontre des gens tous les jours qui me disent « Ah, mais on n'est pas au courant de ce qui se passe à la genellerie ». Et voilà, on a beau écrire dans le Vivramel, dans la Gazette, ce qui avance, on a beau faire des petits points infos sur la radio locale, ben, malgré tout, c'est compliqué de réussir à toucher tout le monde. Et effectivement, même si le fond du projet il est beau, ben, demain, on n'est pas à l'abri que les habitants le voient d'un mauvais œil et puis votent pour une autre liste, quoi. Et du coup, ben, voilà, comment il va évoluer, ça c'est... C'est encore inconnu, hein. Moi je sais pas. Voilà. On va reprendre le même chemin pour ressortir au niveau du champ de patates. Et puis après on avancera dans les prairies de fond de vallée. On n'en a pas parlé encore, mais il y a une réserve de biodiversité communale. Donc on va aller voir ça.
Juste pour vous donner une petite vision de timing, ça fait, c'est vraiment, on est à la réémergence de ce lieu. Moi, ça fait un an que je bosse seul dans un truc vide, un peu désaffecté. L'électricité, ça fait 15 jours qu'elle est là.
Ça fait 2 semaines qu'il y a l'électricité. L'eau aussi, ça.
Ouais.
Il n'y avait pas l'eau potable, enfin, c'est vrai qu'on revient de l'eau.
Bon, moi, je crois pas au sacerdoce du truc où tu bosses 50 heures comme un cinglé pour essayer de rejoindre les deux bouts et qu'il faut inventer des modèles dans lesquels, en fait, tu es capable de te préserver physiquement, de te préserver intellectuellement. Ah oui. Et du coup, ça en fait partie.
Ah oui, d'accord.
C'est-à-dire forcément, si je suis à la binette, à genoux, pendant trop de temps, ça marche pas. Mais si je trouve un équilibre de temps entre ce que je fais moi physiquement, ce que je fais avec un animal et un autre, d'autres activités à côté complémentaires où je peux être assis à un bureau, ben en fait, voilà. Je pense qu'on se préserve aussi, autant la tête que le corps. Mais comme la ferme a été inoccupée, enfin a été inoccupée par des humains, et elle n'était pas inoccupée par toutes sortes d'autres espèces animales. Et un des enjeux forts était de comprendre comment finalement avait évolué aussi l'écosystème de la ferme par l'arrêt de l'activité humaine sur le lieu. Et donc 2 mois avant le village, même 3, on a commencé avec des copains naturalistes à se dire on va faire un groupe d'observation. Et on va commencer à se balader, à essayer de mettre en place des choses pour comprendre qui vit là et comment. Et ça nous a permis de nous rendre compte que la ferme était un lieu de passage et très fréquenté par la chouette effraie. Qu'on avait une famille de faucons crécelles qui nichait dans une des façades. Qu'on avait énormément d'oiseaux qui habitaient la maison, parce qu'en fait les vieux murs pleins de cavités en fait étaient propices à ce que toutes sortes d'oiseaux différents y habitent, les granges pleines d'hirondelles, et du coup comment on a une activité ou en tout cas on réintroduit l'humain là-dedans sans trop parasiter non plus tout cet écosystème qui s'est construit, que ce soit à l'échelle de la ferme ou à l'échelle de la vallée. Et à l'échelle de la vallée, on avait remarqué la présence d'épreintes de loutres le long de la rivière. Et on s'est dit, il faut s'assurer de sa présence. Et donc, du coup, on a installé des pièges vidéo, photo, pas des pièges de chasse. Il faut faire gaffe au cut de la bande-son, là, parce que pour le podcast.
Je mettrai tout.
Donc, et sur les pièges photo, 3e jour après de la pause, on avait la vidéo de la loutre en train de chasser. La parcelle, elle s'arrête au niveau de la haie du fond, là. Hein. Et de la même manière, le fond du champ de foire en haut, derrière le chapiteau, derrière la Seine, c'est la taille de la ferme. Hein. Et du coup, pourquoi il n'y a pas de tente dans le fond? C'est parce que du coup, c'est la zone de la réserve de biodiversité communale. Peut-être Floriane, tu peux parler un peu de ça, réserve de biodiversité communale. Parce que...
Du coup, on connaît tous les zones Natura 2000, les ZNIEF, les zones d'intérêt écologique, floristique, etc. Mais à l'échelle d'une commune, qu'est-ce qu'il existe en fait? Il existe ça, les RBC, les réserves de biodiversité communale, qui sont vraiment qui sont inscrites en fait dans les PLU, sur les programmes d'urbanisme, comme des parcelles en RBC. Ça peut être des boisements. En fait, c'est des parcelles sur lesquelles il y a un programme de gestion naturelle adapté à la parcelle en fonction de ce que c'est. Donc ça peut être des zones humides, ça peut être des zones calcaires, ça peut être des bois. Et donc à chaque fois, il y a des inventaires pour observer la biodiversité et adapter le plan de gestion qui va bien. Et c'est des zones aussi qui sont en fait un peu sanctuarisées. Donc il n'y a pas de chemin qui passe. On essaye vraiment de faire des zones où la faune et la flore sont tranquilles. Tout au long de l'année. Donc ça, c'est une vraie volonté politique, en fait, hein, dans les communes, de créer des réserves de biodiversité communale. Il en existe d'autres. Après, j'ai pas d'autres exemples, mais il n'y en a pas beaucoup de communes qui font ça. Et nous, on a un réseau de RBC. Enfin, on a plusieurs parcelles, en fait, classées en RBC. Sur Mel, là, ça s'étend... Ça s'étend, du coup, après la fusion des communes, il y a d'autres parcelles municipales. Oui, parce qu'il faut quand même être propriétaire du fonds, hein, on ne peut pas faire ça. Donc il y a d'autres parcelles qui ont été classées en RBC. Et là, l'idée, c'est vraiment de travailler sur des trames vertes, des trames bleues, pour connecter toutes ces réserves entre elles, et par des chemins, par des haies, et faciliter le déplacement de la faune, de la petite faune, entre ces réserves, quoi. Donc l'idée politique, c'est vraiment de donner sa place à la biodiversité de notre commune. Et là, donc, on a une RBC. En fait, c'est la partie derrière les piquets bleus. Il y a un hectare ici de fond de vallée qui est sanctuarisé pour la faune. Donc ici, ce qui est observé chaque année, c'est des oiseaux migrateurs qui atterrissent, qui se reposent quelques jours et qui repartent. C'est quoi ? Il y a des oies, des grues.
Ah oui,
les migrateurs, ouais.
Les oiseaux. Les migrateurs, ouais, je pense que c'est ça.
Ouais. Et du coup, c'est enfin voilà, chaque RBC a sa caractéristique. Donc là, celle-là, c'est vraiment l'accueil d'oiseaux migrateurs de passage. Et après, voilà, il y a donc demain, il y a Pierre Joselon qui sera avec nous, qui est l'agent de la commune référent. Et qui pourra nous en dire un peu plus, mais effectivement, il y a plein de libellules, il y a la loutre, il y a le crapaud accoucheur,
le martin pêcheur,
voilà, c'est très
donc
très.
On peut pas aller se balader là-bas.
Non.
C'est complètement et personne n'y va.
Non, personne n'y va, sauf ceux qui font les inventaires, donc ouais. Les naturalistes, sauf pour l'entretien, mais du coup, il y a des dates bien fléchées. Ou des matériels, ou voilà. Et donc là, on va passer en pâturage grâce aux ânes du.
Oui, en tout cas, les questions de gestion, elles se réfléchissent.
Ouais.
Notamment, on est sur un secteur où il y a un papillon assez rare,
oui.
Qui est le cuivré des marais.
Aussi, ouais.
Donc on va retrouver aussi sur une autre RBC de Mel qui est du côté du Loubeau.
De l'avoir de Loubeau.
Ouais, ouais. L'avoir de Loubeau, un peu plus loin. Juste pour vous donner des idées d'échelle, là vous avez l'Argentière qui passe avec une toute petite rivière. Elle prend sa source 1 km à peu près plus haut. Et la confluence avec la Béronne, qui est un peu la rivière principale de Mel, elle se fait moins d'un kilomètre plus bas. Hein. Et la station de pompage, elle est au niveau de la confluence. Enfin, pas loin de la confluence. Ce qui est intéressant avec cette rivière, c'est que nous, on avait fait quelques petites recherches historiques quand même. Elle est recalibrée depuis très longtemps. Si vous prenez le Cadas napoléonien 1830, en fait, elle est déjà redessinée et retracée. Ce qu'on suppose, c'est qu'en fait, ces petites rivières, elles sont faciles à aménager à l'époque pré-industrielle. Vous voulez essayer d'installer des moulins, en fait, c'est très facile de venir avec quelques paysans et des bêches pour réadapter, recalibrer le cours. Et là, elle est un peu en. Ce qui est intéressant aussi sur le parcours des 3 km. C'est que vous avez vraiment des paysages très différents en fonction des tronçons. Quand vous allez dans la parcelle suivante, bon, à laquelle on n'a pas accès, en fait, on a de la pâture. Et on voit tout de suite les effets de la pâture sur la rivière, que ce soit par en fait, l'impact des vaches en fait, sur les haies, où en fait, tout d'un coup, il n'y a plus du tout de lisière de bois. On est plus dans le pré-bois parce qu'en fait, les vaches elles vont complètement manger tout ce qui est apporté. Et c'est la même manière sur le. Et de la même, on sent qu'il y a presque un petit effet de surpâturage. Ici, on est sur une rivière finalement qui se renaturalise un petit peu, où vous avez les iris qui commencent à participer d'un reméandrage naturel. Et vous avez la ripisylve assez jeune qui commence à se reconstituer. Si on regarde des photos anciennes aériennes, en fait, dans les années 50, il n'y avait aucun arbre dans le fond de vallon. Et du coup là on voit qu'en fait il y a, ça se reboise progressivement, beaucoup en frêne. Et puis quand on va aller en amont, le long du camping public qui a été installé pour le village, en fait vous avez un parc aménagé où du coup vous avez une autre approche de gestion de la rivière. Et là ici ce qui a été imaginé, parce que du coup avec la petite équipe de naturalistes, une idée c'était de sensibiliser à ces questions-là sur l'accueil du village. C'est la raison pour laquelle, en fait, les tentes, elles sont. Il n'y a pas de campement à moins de 5 mètres de la rivière, notamment pour préserver les cheminements nocturnes de la loutre. C'est la raison pour laquelle aussi on a interdit la présence des chiens sur le village à cause de cet enjeu-là. Et de la même manière, on a ce corridor qui a été volontairement préservé et dans lequel a été installé ces petits fanions bleus là, qui est une rivière imaginaire idéale si en fait elle reprenait son cours, un cours naturel et avec un cheminement en avec des méandres. Il y a eu, et en complément de ça, il y a déjà eu des chantiers participatifs aussi qu'on n'a pas évoqués, mais autour de ça, de recréation de mares. Parce qu'alors ici, jusqu'au mois de mai, c'était l'inondation. On ne descendait pas sans bottes et sans s'enfoncer la quasi-totalité des bottes jusqu'à la fin du mois de mai. Tellement il y a eu d'eau cet hiver. On craignait vraiment à ce que le camping ne puisse pas du tout s'installer. Et tout le fond de vallon, et notamment la RBC, c'était un lac en fait. Hein. Voilà. Et du coup.
En fait, vous avez créé des mares pour ça pour
alors, les mares, elles ont été créées pour être un dispositif, mais Pierre en parlera mieux que moi, complémentaire à la rivière, pour que par les inondations successives qu'elles provoquent, elles se réinventent un lit à travers les connexions qu'elles vont faire entre les mares, sans avoir la nécessité d'intervenir sur la berge. Parce qu'en fait, les interventions sur berge sont extrêmement réglementées. Et du coup, c'est comment on participe et on invente des dispositifs d'aménagement qui ne sont pas interventionnistes, mais plutôt complémentaires. Et donc, du coup, le fait que la rivière déborde dans une mare et que la mare va se revider à un moment donné, en fait, ça va modifier le lit naturel de la rivière sans qu'on ait eu besoin de jouer la pelleteuse sur la rivière elle-même. Et donc ça, c'est un peu la modalité qui est inventée sur la RBC. Et notamment pour favoriser la présence d'autres insectes et batraciens, notamment pour favoriser la salamandre, l'idée c'est de travailler sur des mares en fossé, et donc de profiter de certaines ornières pour les accentuer. Et ça crée en fait des conditions propices à la salamandre, que ce soit sur l'ensoleillement, la manière dont la chaleur... se développe dans la mare. Enfin ça, du coup, j'en ai pas du tout les compétences pour vous détailler ça. Mais sur les questions de gestion et notamment du cuivré des marais, parce que c'était de là que venait la question, c'est que le cuivré des marais est un papillon, enfin, et beaucoup des papillons, ça c'est des choses que j'ai appris ce printemps, ont besoin du cycle de vie complet de leur plante hôte. C'est-à-dire qu'il y a une plante qui leur est propice à leur développement parce que c'est là que vont être pondus les œufs, que la larve va se développer. Finalement, la chrysalide, elle se fait presque à la fin du cycle de vie complet du papillon. Et du coup, le cuivré des marais, il est associé au rumex. Un rumex que les maraîchers, ils n'aiment pas beaucoup parce que du coup, c'est une sacrée plante à emmerde. Et c'est une plante, par contre, c'est un très bon décompacteur. Le rumex fait une très grosse racine, décompacte les sols. Si on veut préserver le rumex, il faut un sol piétiné. Parce que du coup, une fois que le sol est décompacté, le rumex n'a plus son rôle et se fait devancer par des plantes qui poussent plus facilement dans un sol décompacté. Et l'autre chose, c'est que pour que le cuivré des marais puisse être présent, il faut que le rumex ait subi l'inondation. Donc si on veut le cuivré des marais, il faut une prairie dans laquelle on ait du rumex, donc une prairie qui reste compactée et qui subisse l'inondation de temps en temps pour que les rumex présents aient été inondés. Voilà. Et du coup, bah, quelle démarche on met en place Et du coup, est-ce que les ânes, à un moment donné, ont un rôle là-dedans parce qu'eux, en piétinant, peuvent peut-être favoriser la présence du rumex. Et ça, c'est des choses qu'on va réfléchir sur les années à venir.
Voilà. Et la création des mares, elle est autorisée?
Alors, quand on parle de mares... Je pense que c'est relatif. En fait, les mares, elles font même pas la taille de cette tente.
Oui, ok.
C'est vraiment... C'est des petits chapelets de trous d'eau. Et comme elles sont au niveau de la rivière, elles restent en eau. Mais c'est pas des mares qui font... ça fait même pas 30 mètres carrés.
Quoi. Ce que je veux dire, c'est quand même l'agence de l'eau, elle n'a pas... Il n'y a pas eu d'avis négatif
Non, après, ils sont associés, l'agence de l'eau et... Et puis les associations comme des SNE qui participent aussi au programme d'inventaire. Donc il y a des rapports chaque année d'actualisation des inventaires et de programmes d'action et qui sont envoyés donc aux partenaires pour le suivi des RBC. Et du coup, voilà, les programmes d'action, ils sont annoncés. Donc... Mais là, je ne sais pas si on va voir la mare, mais c'est vraiment tout petit.
En fait, ça, je pense qu'on peut proposer les visites naturalistes.
Ouais. Il y en a. Oui. Pas le programme avec moi.
Et donc du coup, l'équipe qui a un peu travaillé en amont.
Il y en a plein, après la
prochaine. Oui, ce soir.
Il y en a plein.
C'était annoncé à 6h à 9h, il n'y avait personne.
Ah.
C'était annoncé, non ?
Dès aujourd'hui. Bon, je pense que celle de cet après-midi. Ouais. Ok, on va aller leur tirer les oreilles. En tout cas, il y a une équipe de naturalistes qui a travaillé en amont et qui va être présente là tout au long. Il y a un stand qui a été déplacé pour les conditions d'accessibilité de la prairie, parce que du coup, comme on était plus sûr d'installer le camping, le stand qui était prévu là, en fait, il est à côté du point presse. Donc dans le village Assaut, à côté du terrain de foot. Le plus près du terrain de foot, là-bas, vous allez trouver le stand naturaliste. Il y a la loutre, la sculpture de loutre qui est juste à côté. Et l'idée, c'est que ce soit un peu le point de regroupement sur les questions naturalistes. L'idée, c'est qu'il y ait différentes balades thématiques. Il y a différentes équipes sur la question ornitho, sur la question des insectes. C'est un lieu qui a toujours, dans les animations nature sur Mel, était un lieu ressource sur la question de la libellule. Il y a 16 espèces de libellules qui sont référencées sur le site, dont plusieurs protégées au niveau européen. Et donc, je pense que l'idée, c'est d'aller les voir. Moi, là-bas, je vais animer la constitution d'un herbier. Donc, l'idée, c'est que ce village permette de faire l'inventaire de botanique, en tout cas, une grande partie de l'inventaire botanique du site. Forcément, on fait ça après le printemps, donc il y a toute une partie des floraisons qui auront disparu. Mais on va essayer de constituer un herbier en 4 jours avec des balades thématiques aussi. Voilà.
J'entends.
Ça me plaît bien. On va finir la boucle par là.
On finit aux ânes.
Aux ânes. Et du coup, en fait, vous avez fait le tour un peu de toutes les parcelles qui sont rattachées à la ferme de la Chenellerie. Donc je pense qu'on visualise bien qu'installer une activité agricole avec des prairies très humides, de fond de vallée qui contribuent au captage d'eau potable, et des prairies sèches où il y a peu de terres arables pour de la culture, il y a un vrai projet de fond à continuer à porter, quoi.
J'étais un pays humble et beau, j'étais une terre nourricière. J'étais un pays humble et beau, des percherons j'étais le berceau. Je n'étais pas un pays facile, il fallait vouloir travailler. Mais on était récompensé, et comme le cidre désaltéré. C'est la faute au remembrement, si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au remembrement, si plus rien n'arrête le vent. En été dans les chemins creux, sans lasser les amoureux, les rossignols des alentours leur sifflaient des chansons d'amour. Avec les branches de sureau, les enfants faisaient des flutiaux. Existe-t-il un seul ruisseau qui n'ait pas fait tourner de moulin à eau? C'est la faute au remembrement, si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au remembrement, si plus rien n'arrête le vent. Les techniciens sont arrivés, les techniciens ont ordonné aux paysans manipulés, toutes les haies ils ont arraché. Toutes les collines ils ont rogné, toutes les mares ils ont bouché, mes vertes prairies ils ont drainé, l'Europe verte m'a torturé. C'est la faute au remembrement, si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au remembrement, si plus rien n'arrête le vent. D'ici c'est ma peau, et elle a tenu fermement. Elle s'envolera avec le vent, elle se dissipera dans l'eau. Et quand l'herbe aura disparu, de quoi vivront les troupeaux? Les roches apparaîtront comme des eaux qu'on met à nu. C'est la faute au remembrement, si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au remembrement, si plus rien n'arrête le vent. braves gens que j'ai nourris sous la contrainte m'ont trahi. Aujourd'hui ils me mortifient à cause de l'Europe du profit. Mais un jour les fleurs pousseront, toutes les haies replanteront, et les pommiers refleuriront, sans sapin de pays percheront. C'est la faute au remembrement, si l'eau disparaît des fontaines, c'est la faute au remembrement, si plus rien n'arrête le vent. Gare à vous, gens de Paris, car toute gloire est éphémère, et le pouvoir ne dure guère, les gens d'ici l'ont bien compris. Et alors, à l'abri du vent, le perche et les percherons en liesse, connaîtront l'éternelle jeunesse, et vivront mille et mille printemps. C'est la faute au remembrement, si l'eau disparaît des fontaines, c'est la faute au remembrement, si plus rien n'arrête le vent. C'est la faute au remembrement, si l'eau disparaît des fontaines, c'est la faute au remembrement, si plus rien n'arrête le vent.
Si tu trouves que ce jingle est faux, c'est la méga radio.
Radio.
On va commencer ce temps-là avec un temps un petit peu de retard. Donc c'est un temps qu'on a voulu un peu hybride entre une table ronde et un temps d'assemblée. Pour le premier temps sur la table ronde, on a donc trois intervenants et intervenantes qui vont parler 20 minutes chacun, chacune de leur expérience en fait et des enquêtes qu'ils ont menées et de leur expérience de l'extractivisme, des problèmes posés par l'extraction. Minière ou d'extractivisme ou autre type d'extractivisme et des liens avec la transition énergétique et entre ce qui se passe ici et ce qui se passe là-bas en fait. Voilà, c'est un peu ça l'enjeu. Pour ce premier temps, on a le plaisir d'accueillir Juan Pablo Guitérez, qui est réfugié politique en France depuis plusieurs années et qui est délégué international du peuple Yupa en Colombie. Et l'Organisation nationale indigène de Colombie. Juan Pablo défend le peuple Yupa qui est victime de l'extractivisme au nord-est de la Colombie. Donc ce sont des paramilitaires qui s'accaparent leurs terres pour extraire du charbon, donc des mines à ciel ouvert, et au profit d'entreprises et de multinationales occidentales. Donc, merci Juan Pablo d'être venu.
Parce que le Yupa, on ne le connaît pas trop ici. En 20 minutes, parler de quelque chose d'aussi complexe, surtout pour le comprendre dans la profondeur de sa complexité, c'est très compliqué, mais je vais essayer de faire le maximum. Mes parents m'ont appelé Juan Pablo il y a 42 ans. Dans les terres qu'aujourd'hui on connaît sous le nom de la Colombie. Et ces terres qui sont ancrées dans ce bloc continental de la Via Jala qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de l'Amérique. Une terre qui est très belle, qui regorge en qualité et surtout qui regorge aussi de paradoxes et contradictions. Parce que c'est le deuxième pays le plus biodivers du monde, c'est-à-dire qu'on regorge de tout ce qui rend possible la vie dans la planète. Et en même temps, c'est un territoire où, à l'heure actuelle, en 2024, et habitent encore 115 peuples autochtones. Et 50, à chaque fois, je mets l'accent sur le fait que 115 peuples autochtones, il ne s'agit pas de 115 populations, 115 communauté qui serait partie par là, mais c'est 50 nations, 50 univers différents, 50 cosmos différents, 50 manières différentes d'interpréter le monde, avec des langues distantes. S'il y a quelque chose qui caractérise les peuples autochtones, contrairement à la vision qu'on a voulu nous imposer ici, c'est la diversité. Et en Colombie, il y en a 115. Et cette biodiversité de laquelle j'ai parlé ne se trouve pas dans les villes, ni à Medellín, ni à Cali, ni à Bogota, mais elle se trouve dans les territoires des peuples autochtones, qui actuellement, à échelle même globale, nous sommes le 4% de la population mondiale, minorité démographique. Mais en 2024, aujourd'hui, on a 80% de la biodiversité qui reste dans la planète, dans nos territoires. C'est-à-dire que dans ce contexte de crise climatique, l'humanité tout entière peut encore vivre dans cette planète grâce à ce 4%. Ici, on aime bien les statistiques, les données, tout ça. J'ai dit que je devais avoir des arguments de ce type pour qu'on me sorte du dogmatisme dans lequel on tend toujours à mettre tout ce qu'on dit. Et pour les peuples autochtones qui vivent dans ce deuxième pays le plus biodivers au monde, on pourrait dire que c'est une raison de fierté ou d'orgueil, mais en fait, en réalité, c'est une condamnation de mort de vivre dans ce paradis, dans ce contexte. Parce que pour tout le monde, il est bien connu que nous sommes dans un monde gouverné par ces modèles de sociétés capitalistes, néolibérales et coloniales, qui dépend de ça, de ce qu'on appelle ici des ressources, pour maintenir et pour garantir ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle depuis quelques siècles le progrès, qui est le colonialisme dit autrement pour nous. Et ça se traduit sur le fait que nous, les peuples autochtones, on porte depuis 532 ans le poids de cet intérêt global, de ce système, et surtout de cette vie normale qui s'est construite sur l'expoliation et l'extraction, la destruction de nos territoires, et de l'intérêt global sur nos territoires. Nous sommes en Colombie le 3% de la population, une minorité infime, et malgré ça, malgré le poids de même de la population colombienne, du 97% restant, et de l'intérêt mondial des corporations, des gouvernements, de ce qu'on appelle le Nord global, on n'a pas encore réussi à nous exterminer. C'est pour ça que nous sommes là. Et c'est pas parce qu'on soit, comme on est toujours en train de nous penser, en train de léviter dans les forêts, en train de manger des feuilles des arbres, ou en train de serrer les arbres. C'est parce qu'on a su s'organiser, on a su créer un processus de lutte et de résistance depuis un siècle contre ce modèle contre lequel aujourd'hui vous voulez vous battre. Les peuples autochtones ont quelques 5 siècles d'avance, et aujourd'hui, à la lumière de cette crise systémique, et sans aucune prétention, le message qui a été tellement minimisé, réduit et occulté par l'arrogance de l'illustration européenne commence naturellement et sans prétention à se positionner comme légitime pour la première fois de l'histoire. Je viens d'un de ces 50 peuples autochtones qui habitent en Colombie, qui s'appelle le peuple Yupa. Nous habitons au nord de la Colombie, nord-ouest, dans une montagne qui fait frontière naturelle avec le Venezuela, qui s'appelle la Serranía del Perijá. Et nous faisons partie géographiquement d'une région qu'on appelle le corridor minier, qui regorge en charbon. Et ça a été notre problématique parce qu'il y a eu des multinationales qui se sont installées dans notre territoire. Et là, je voudrais faire la première précision parce que tout à l'heure, dans la présentation, tu as dit que c'est les paramilitaires qui accaparent nos terres. Ce n'est pas les paramilitaires, c'est les multinationales du Nord qui s'accaparent grâce à la violence exercée par les groupes paramilitaires qui les possèdent, qui déplacent les populations et qui font le travail sale. Mais les paramilitaires, c'est les mercenaires. Chez nous, il y a deux multinationales qui se sont installées. Une états-unienne, qui s'appelle Drummond, et une deuxième européenne, et qui s'appelle Glencore, qui est une des plus grosses du monde. Et ils ont ouvert 5 mines de charbon à ciel ouvert. Une qui mesure presque 3 fois la taille de la ville de Paris, à ciel ouvert. Et il y en a 5. Et qui ont détruit le tout dont nous on dépend pour survivre. Et mais pas nous, en tant que peuple, je parle de l'humanité. Même actuellement, on pourrait le dire comme ça, à ce temps de crise climatique. Alors, le gouvernement de l'époque lui a octroyé des licences d'exploitation, le gouvernement de droite de l'époque, en justifiant la non-existence des peuples autochtones sur ces territoires. Et de ce fait, il n'y avait pas lieu à faire des consultations préalables et tout ça. Il y a eu des déviations des rivières, pollution des rivières. À l'heure actuelle, si on veut manger du poisson, comme on l'a toujours fait, il faut qu'on descende à la partie pleine pour l'acheter. Maintenant, dans les petits supermarchés, il n'y a plus beaucoup d'animaux pour se nourrir parce que bah, tout l'écosystème a été détruit et ils sont partis maintenant pour chasser. Il faut s'éloigner de plus en plus, marcher deux jours pour pouvoir chasser quelque chose du côté du Venezuela. Alors, il y a quelque chose qui a surgi, qui est l'arme létale la plus dangereuse contre le peuple Yucpa et contre les peuples autochtones de la Colombie, plus létale que les armes des groupes paramilitaires qui s'appelle la faim. Quelque chose que, dès qu'on a des souvenirs, ça n'existait pas. Et si vous venez un jour dans mon territoire, et on se couche à peu près à 8h du soir parce que le soleil tombe vers 18h, et tous les soirs, à partir de minuit, on se réveille avec des petits pleurs d'enfants qui commencent à pleurer par ici, par là, par une petite symphonie qui, à minuit, commence à résonner. Des enfants qui sont en train de pleurer parce qu'ils ont physiquement faim dans le deuxième pays le plus biodiversifié au monde. Alors, il y a eu des nouvelles problématiques, la faim et une violence et paramilitaire, comme tu l'as dit, et les multinationales, pour pouvoir occuper ces territoires, travaillent en collaboration, déjà prouvé. Il y a même une sentence contre le président de la Douma en Colombie, parce que c'est déjà prouvé. Les nexes. Et ils tuent les personnes qui s'opposent à ces projets de développement, de progrès, pour pouvoir s'installer ultérieurement. Et ils commettent des massacres horribles. Ils arrivent et si les personnes s'opposent, ils tuent les personnes. Et en plus, il y a des cas dans d'autres peuples autochtones où ils coupent les têtes, ils jouent au foot avec les têtes des personnes. Et ce n'est pas des cas exceptionnels, mais c'est la règle. C'est une violence généralisée et très horrible. Et des nouvelles maladies liées à la poudre de charbon qui règne un peu dans l'atmosphère et qui fait coûte la vie à 40 enfants Yucpa par an, environ. 40 enfants qui meurent de maladies respiratoires et de malnutrition dans le deuxième pays le plus biodivers au monde. Il y a eu la profanation de cimetières, on appelle sites sacrés, où on amène les corps de nos défunts. Et les anciens travailleurs de ces mines nous ont dit qu'à plusieurs reprises, ils avaient trouvé des petits corps enveloppés dans des tissus de la manière comme on le fait traditionnellement. Et qu'ils avaient entendu dire que ces corps, ils avaient été sortis du territoire colombien pour être exposés dans des musées à l'étranger. Alors, et là, je pourrais rester toute la journée en train de vous énumérer en détail la tragédie. C'est une tragédie qui n'est pas isolée, qui n'est pas une exception. C'est la règle de tous les peuples autochtones, de ce poids que nous devons porter depuis des siècles pour subvenir aux besoins d'un système et surtout à un mode de vie qui a été créé ici au nord global. Et bien sûr, je ne le fais pas dans une perspective de culpabiliser, mais c'est comme ça, c'est ça le système à monde. C'est un progrès, c'est un développement qui a été fondé, qui dépend encore dans l'actualité de la destruction et de l'exploitation des terres et des populations du sud global. Tout ce qui rend possible la vie dans ces pays du Nord,
vient d'ailleurs. Tout. La nourriture, les vêtements, toutes les matières premières pour construire tout. Et la plupart des personnes conçoivent ça comme, comme l'absolument, comme l'absolu, non ? La réalité qui a toujours été comme ça, ce qui a été naturellement donné. Mais on ne se réfère pas à l'histoire et on ne se rend pas compte que c'est une société qui a été, qui a pu surgir, mais surtout qui dépend encore aujourd'hui du colonialisme, de maintenant de ce progrès et de l'extractivisme qui est la même chose. C'est la condition des possibilités du développement des pays riches, même dans l'actualité. Le charbon de chez nous, il a été importé par la France pendant plus de 2 décennies par EDF avant de devenir propre avec le nucléaire. Et à chaque fois qu'on dit en France, on est ici pour réclamer, il y a une dette. On est actuellement en Colombie dans un contexte de construction de paix avec les guérillas et tout ça. Et on dit qu'il ne peut pas avoir de paix sans vérité, sans réconciliation et sans réparation. Et à chaque fois qu'on dit ici ça, en France, on dit « Ah, c'est le passé. Le colonialisme, ah, c'est le passé. » Mais on a encore les séquelles aujourd'hui et on cherche à qu'il y ait cette réparation et cette vérité pour qu'il puisse avoir une réconciliation. Voilà. Et l'Allemagne continue à l'emporter encore aujourd'hui. La France, elle a déjà fait la transition vers le nucléaire. Et l'Allemagne, elle continue quand même à l'emporter. Et c'est un charbon qu'ici, c'est la lumière d'une ampoule, c'est le chauffage des appartements, c'est la vie normale. Et pour les peuples autochtones, pour le peuple du pas, c'est le génocide. C'est 40 enfants qui se couchent, qui s'endorment de la fatigue de pleurer parce qu'ils sont en train de sentir faim parce qu'on n'a pas pu les nourrir dignement dans les deuxième pays du monde. Et à chaque fois, je dis, qu'est-ce qui se passerait si c'était 40 enfants, disons, français qui mouraient chaque année à cause de la poussière de charbon, d'une mine de charbon en France exploitée par une compagnie russe. Qu'est-ce qui se passerait? Ça serait la Troisième Guerre mondiale. Ça serait scandaleux. J'ai été très surpris et ça m'a confirmé la tragédie, et la journée devient tout petit peu avec cet exemple, et la tragédie de Charlie Hebdo, qui a été une tragédie qui devait être totalement condamnée, mais la proportion que ça a pris, et il y a 10 personnes qui ont été assassinées dans des conditions horribles, mais en fait, le lendemain, tous les chefs d'État du monde étaient en train de marcher avec Hollande sur le boulevard et Charles-Noir en direction de République. Tous et tous les journaux du monde, je suis Charlie, je dis, mais c'est magnifique, c'est très beau. Mais il y a 40 enfants du Yupa qui meurent tous les ans. Il y a plus de 6000 défenseurs du territoire qui ont été assassinés les 2 dernières années. Et pourquoi? Parce que nous sommes encore dans un monde gouverné par cette hiérarchisation raciale, où il y en a certains qui méritent d'être pleurés, d'autres qui ne. Et ça, il faut l'avoir présent, il faut être conscient de ça, et c'est pour ça que nous sommes ici, pour que cette symphonie de la mort, pour que ces enfants ne pas et puissent faire leur nuit tranquillement. Alors face à cette tragédie, comme je vous ai dit, qui n'est pas exclusif du peuple Tupa, mais partagé par les peuples autochtones, et qu'on soit si peu, et démographiquement parlant, et qu'on soit encore aujourd'hui en vie, c'est, je vous ai dit, c'est pas parce que les esprits, les âmes, nous ont protégés, mais parce que vraiment, on a su tisser, on a su répondre à cette oppression, et à travers deux choses que j'ai eu l'opportunité de constater dans d'autres peuples autochtones du monde. Parce que quand on sort de son peuple, on pense que l'univers il est tout comme son peuple, mais après on se rend compte en fait qu'il y a d'autres peuples qui pensent différents. Et j'étais en Mongolie, au Pakistan, au Tibet, en Birmanie, en Afrique, ici au nord, avec le peuple Sami également. Et j'ai constaté que les peuples autochtones, on est tous différents, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais par contre il y a deux choses qui sont transversales à tous les peuples autochtones dans le monde. Et C'est le fondement de la résistance pour nous. La première chose, c'est une vision collective du monde. C'est-à-dire, l'individu moderne, qui est un peu la conquête de la modernité, l'individu. On se voit toujours comme un collectif, on n'est pas ce « je pense, donc je suis, je ». On est plus de « je suis parce que nous sommes ». Je ne peux pas être tant que nous ne sommes pas tous et toutes. Et la deuxième, c'est une conscience profonde de la dépendance que nous avons de la nature, la mère terre, la Pachamama, comme on veut l'appeler, c'est la même chose. Parce qu'on dépend d'elle pour vivre. Et ma fille, dès qu'elle avait 2 ans, elle lui disait, bah, c'est elle qui nous donne à manger. C'est elle qui nous permet de nous hydrater, c'est elle qui nous permet de respirer. Le vital du vital, la vie dépend de ce qui possibilite la vie de la mère. Et la mère, on la protège, parce que sinon, on dépend d'elle. C'est quelque chose qui ne demande pas des thèses de doctorat, c'est des choses tellement élémentaires qui sont devenues tellement complexes à comprendre dans ce monde. Tous les peuples autochtones sont marqués par ces deux choses. Une vision collective du monde et un respect profond de la mère terre. Et quand on vous regarde, on fait le parallèle avec, par exemple, le monde moderne. En fait, c'est l'opposition des fondements de la modernité. L'individu, le je pensant et rationnel, et l'homme en tant que maître possession de la nature. Voilà. Et nous, on dit, en fait, c'est à partir de l'émergence de cette modernité que il y a eu un avant et un après dans l'ordre universel, en fait. Ça a changé l'organisation naturelle du cosmos où les personnes ici ont osé faire quelque chose que personne n'avait osé jamais dans l'histoire, et c'est de se penser supérieur à la mère terre. Et à partir de ce moment-là, et là nous sommes là. Ça, c'est la conséquence. On a décidé de s'organiser en tant que peuple localement et de poser résistance. Nous sommes un peuple guerrier, le peuple Yupa, même un peu redouté par les peuples autochtones voisins. Le seul peuple où les gros paramilitaires n'ont pas réussi à entrer avec une détermination farouche pour la défense de notre territoire. Et à chaque fois que je parle comme ça, à la fin, les questions, c'est bon, mais comment il faut lutter? Sois clair, il faut s'armer. À chaque fois, on me dit, il faut qu'on s'arme. On me dit, ici en Europe, je dis, bah oui. Il faut s'armer avec l'arme la plus forte, la plus létale qui existe, qui est celle qu'on a toujours portée, qui est la détermination du collectif. La conscience claire du collectif constitué dans un pouvoir inarrêtable, tel des rivières qui ne peuvent pas être freinées par aucune autorité. Et ça ne demande pas d'armes physiques. Nous, on s'est confrontés à un groupe de presque 100 paramilitaires avec des fusils AK-47 qui voulaient accéder à notre territoire. Et nous, 2000 personnes, nous sommes venus, enfants, grands-parents, grand-mères, les familles, tout le monde. Et on a dit, si vous entrez à notre territoire, on se tue tous. Et en plus, en haut, si vous nous tuez tous, en haut de la montagne, dans les naissances des rivières, il y a des personnes qui vont empoisonner toutes les naissances des rivières pour tuer toutes les personnes des villes qui dépendent des... Et vous serez les responsables de l'assassinat du peuple Yupa et des personnes des villes environnantes. On y va. Ils n'ont pas osé entrer. Il y a des photos sur Internet, même dans un autre peuple autochtone, des forces armées du gouvernement colombien, de l'ejército colombien, qui s'est installé dans un territoire sacré d'un peuple autochtone au sud de la Colombie. Et ils sont allés leur dire, bah, ça c'est un site sacré à nous, partez s'il vous plaît. Et ils ont dit non, on a reçu des ordres, il faut qu'on reste ici. C'est une troupe de 25 et soldats armés. Et ils ont dit, bah non, vous devez partir. Alors tous, ils ont pris, ils ont porté, ils ont poussé. Et après les médias interviewaient ce soldat colombien, le capitaine de cette troupe. Et il pleurait. Et il disait, je n'ai jamais été aussi impuissant de ne pas pouvoir déclencher ma mitrailleuse face à la force et la dignité de tout ce peuple qui n'était pas en train de m'agresser, mais qui était en train de me sortir de son territoire. Et et l'organisation collective, la force de la multitude, la force de la communauté constituée dans un pouvoir, c'est la recette pour nous. Alors on a commencé à s'organiser en tant que peuple Yupa, mais quand même les problématiques et continuer. Ensuite, on s'est articulé avec d'autres peuples autochtones du même département, et là, on a commencé à sentir que les choses changeaient un petit peu. Après, ça changeait, mais l'oppression, elle était encore là, et elle est encore aujourd'hui. Après, on s'est organisé nationalement, et on a créé l'Organisation nationale des peuples autochtones de la Colombie. Les peuples autochtones en Colombie sont dans 28 des 32 départements de la Colombie, c'est-à-dire partout, éparpillés. Et à partir du moment où on a créé l'Organisation nationale indigène de la Colombie, et quand on sort tous et toutes ensemble dans ce qu'on appelle les Mingas, la Minga c'est la mobilisation collective, dans ce contexte de revendication, on sort et on bloque le pays, du Caraïbe, toute la zone andine, l'Amazonie, les plaines de l'Orinoco à l'Orient et la côte pacifique, tout le pays bloqué par un peuple uni, par cette pensée collective, convaincu de vouloir changer les choses et de ne pas s'attendre à que peut-être le Saint-Esprit illumine la conscience de Macron pour qu'il se rende compte avec les chefs d'entreprise que c'est mauvais ce qu'ils sont en train de faire avec les tacamantes et tout ça. Non! On va, et ça c'est la différence pour nous, radicale, entre la révolution et l'activisme. L'activisme, on espère quand même, c'est-à-dire c'est un moyen d'expression très légitime qu'il faut continuer à faire. Mais on espère quand même que peut-être ils vont se dire oui, en effet, il y en a beaucoup qui sont en train de manifester, ou ceux qui décident de se mettre et de vraiment démontrer qu'on veut faire que les choses changent. Mais pour que ça arrive, il faut devenir et se constituer un pouvoir. Et le pouvoir, c'est seulement fait grâce à la multitude. À la multitude. Des masses convaincues de leur pouvoir transformateur. C'est ça qui nous a permis jusqu'à aujourd'hui de survivre. La problématique, elle est encore là, mais c'est celle qui nous a permis de la confronter. Cette vision collective et cet amour profond par la mère terre. De sorte que, et je finis avec ça, qu'à chaque fois qu'on se mobilise, qu'il y a quelque chose qui ne va pas en Colombie, on appelle Monsieur le Président et on dit, le Président de l'ONU dit, ça ne va pas, cette loi est en train de nous affecter et on va convoquer la Minga. Si vous n'êtes pas mardi prochain à cet endroit avec votre ministre de l'Agriculture pour qu'on négocie, vous connaissez de s'en sortir. Le mardi prochain, le Président il est là avec le ministre de l'Agriculture parce qu'il sait que sinon la Minga elle va sortir. Et la Minga c'est comme l'eau qui ne connaît pas de frontières et qui, voilà. Et ici, ce que j'ai vu, c'est que c'est très bien, mais on est encore au stade de, par exemple, nous, quand on s'organisait en tant que peuple tout seul, il manque l'articulation avec d'autres pays à l'échelle continentale, à l'échelle européenne, rompre avec ses frontières nationales, que je suis allemand et lui, il est français, ou il est anglais, je suis soulèvement, et lui, c'est l'autre. Parce que jamais on va arriver. Je vous le dis par expérience propre. Merci beaucoup.
Carbon, 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 car
Qui est journaliste et philosophe et qui formule dans ses recherches une critique des nouvelles technologies et de leurs impacts environnementaux et sociaux. Et elle a notamment publié récemment en janvier aux éditions Seuil un livre qui s'intitule « La rue minière au XXIe siècle, enquête sur les métaux à l'heure de la transition ». Et dans lequel elle a donc mené une enquête sur plusieurs sites miniers dans le monde entier, en Andalousie, au Maroc, en Ukraine, et pour essayer non seulement de critiquer cette notion de transition qui repose en réalité sur un extractivisme intensif des métaux et qui montre également les impacts de cette industrie minière sur les populations locales et les impacts destructeurs sur l'environnement. Merci, Céline.
Bonjour. Juan Pablo, tu parlais de Glencore, et comme c'est une entreprise européenne, il faut présenter un peu Glencore en deux mots pour dire que c'est la quatrième entreprise européenne en chiffre d'affaires. C'est une entreprise minière qui fait du charbon et d'autres métaux et qu'elle a été fondée par Mark Rich, qui est un Américain et qui a été condamné par la justice américaine à 325 ans de prison pour une des plus grandes escroqueries de l'histoire des États-Unis. Et ensuite, il est allé fonder une entreprise minière basée en Suisse qui donc se déploie dans le monde entier. C'est donc le capitalisme minier qui a pignon sur rue, qui est totalement structurant dans notre monde et qui, en même temps, a des pratiques qui sont génocidaires et des conséquences génocidaires d'un bout à l'autre de la planète. C'est un bon exemple. J'espère dans mon exposé pouvoir aborder le fait que ce qu'on appelle la transition, que je vais essayer de décrire, a besoin du charbon. Puisque, en fait, dans les pays du Sud, le déploiement du capitalisme et sa poursuite fonctionne par la force. Et dans les pays du Nord, ils fonctionnent par la persuasion, par le conditionnement et par la propagande, avant tout, surtout quand ils s'adressent aux classes moyennes. Et donc, nous, on doit faire tout un travail qui consiste à désillusionner, comprendre ce qui se joue derrière les mots qu'on nous rabâche à longueur de journée. Parce que c'est ça qui rend possible le reste. Et donc, par exemple, quand les classes dirigeantes nous parlent de transition, ce qu'elles veulent qu'on comprenne, c'est grâce à ce nouveau modèle dans lequel nous vous embarquons, grâce à nos nouveaux projets, on va sortir du charbon de Glencore en Colombie pour créer d'autres choses qui reposent sur des technologies innovantes et des solutions environnementales, etc. Et en fait, quand on regarde comment ça fonctionne réellement, ce qu'on voit, c'est un continuum extrêmement... une prolongation assez parfaite au fil des siècles entre ce qu'on a appelé la civilisation, c'est-à-dire la colonisation des Amériques et du reste du monde ensuite, ce qu'on a appelé le progrès, c'est-à-dire la déclinaison de la civilisation au XVIIIe, XIXe siècle, et puis ensuite le développement, et puis ensuite, aujourd'hui, la transition. Je mets ces concepts bout à bout